Edith Wharton, Le retour à la maison. Chapitre 5.
Voilà le clocher, s'écria Réchamp.
Je ne voyais rien dans l'obscurité, mais lui, j'en suis sûr, l'eût deviné à travers les ténèbres de la nuit la plus sombre. Il sauta de la carriole et saisit le cheval par la bride. Je distinguai les pignons des maisons, puis je découvris le clocher au bout de la longue rue que Jean nous faisait suivre. Toutes les lumières étaient éteintes. Seule, la neige épaisse éclairait tout d'un pâle reflet. Le village semblait aussi calme et aussi intact que si la guerre n'eût jamais passé par là. En arrivant sur la grande place, au bout de la rue, Réchamp arrêta le cheval.
« L'orme ! Le cher vieil orme, devant l'église » cria-t-il avec une voix d'enfant.
Il revint vers moi en courant, prit mes deux mains et me dit
« C'était donc bien vrai ! Rien n'a été touché !»
La vieille femme demanda
« Est-ce que c'est ça, Réchamp ?»
Il reprit le cheval par la bride et longea un mur de parc jusqu'à une grande grille devant laquelle il s'arrêta. Elle était fermée. Aucune lumière ne filtrait à travers les volets de la maison du gardien. Réchamp, après avoir écouté pendant un instant, siffla deux fois. À ce signal, la porte de la maison s'ouvrit et un vieux bonhomme risqua un regard. Alors, vous pouvez vous imaginer la scène. Retour du jeune seigneur, émotion du vieux serviteur, larmes, embrassades et tout le reste. Je sais que vous affectez un certain mépris pour le genre cinéma, et ceci était du meilleur cinéma, y compris le trémolo, etc. Il y a des films dont la guerre nous aura appris à ne pas rire. Nous nous empilâmes de nouveau dans notre charrette. La nuit était si noire que je pus à peine distinguer la longue avenue qui menait à la maison. La porte nous fut ouverte par un autre vieux serviteur, abritant une bougie de sa main. Nous étions dans l'antichambre. Plusieurs portes s'ouvrirent encore. Nouvelle scène de cinéma. Grand vieux salon, tableau de famille, groupe patriarcal auprès du feu. Tous ces gens crurent évidemment que le domestique ouvrait la porte pour annoncer le dîner, et personne ne tourna la tête à notre approche. Je les voyais tous, par-dessus l'épaule de Jean. Une dame à cheveux gris, tricotant péniblement, avec des mains raidies par les rhumatismes. Un vieux monsieur, au nez courbé et au menton sans énergie, assis dans un fauteuil sculpté. Plus portrait lui-même que tous les portraits pendus au mur. Une jolie jeune fille accroupie à ses pieds, caressant la tête d'un chien. Enfin, une autre jeune fille, avec une croix rouge sur sa manche, assise auprès de la table. Elle faisait la lecture d'une voix grave, un peu voilée. Elle ferma son livre en disant
« C'est le dîner !»
Levant alors les yeux, elle vit Jean. Sa belle figure sombre resta calme, mais elle lui fit un signe de la main comme pour l'avertir. Il comprit et poussa le domestique devant lui.
« Madame la comtesse, il y a quelqu'un dehors qui voudrait parler à mademoiselle. »
La jeune fille brune se leva vivement et courut dans l'antichambre. Je me demandais, est-ce pour la voir à elle toute seule avant les autres? Ou a-t-elle peur pour ses parents de la surprise trop brusque? Je me sentais de trop, mais sans même me regarder, elle alla droit à Jean et se jeta à son cou. J'étais derrière lui. Je pouvais voir les mains nerveuses qui l'enlaçaient passionnément. Pour ces deux-là, il n'y avait pas de doute. Ils s'aimaient aussi follement qu'au premier jour. L'instant d'après, elle m'aperçut et posa sur moi, comme pour me déchiffrer et me pénétrer, les plus beaux yeux, peut-être, que j'eusse jamais vus. Je ne parle ici que du regard lui-même, chaud et résolu, plein de promesses et de profondeur. Réchamp lui dit qui j'étais. Elle m'accueillit comme un ami et me remercia avec simplicité. Puis elle retourna préparer les parents Réchamp, comme on dit dans les mélodrames, et nous la suivîmes quelques instants après. Je fus aussitôt frappé de voir combien ces gens d'aspect si insignifiant savaient tout de suite se dominer et trouver le beau geste. Ils avaient la ligne. La mère déposa son tricot sur la table, il ne lui échappa pas des mains, et attendit son fils les bras tendus. Elle trouva même moyen, pendant qu'elle le tenait embrassé, de me donner ma part de bienvenue. Comment dirais-je ? Je n'eus pas un instant le sentiment que j'étais un étranger. Je suppose que cela fait partie de ce que vous appelez la distinction, ce don instinctif d'avoir toujours l'attitude qu'il faut, même dans les circonstances les plus imprévues. Je ne cessais de regarder avec étonnement ce vieux salon si paisible, où tout respirait le calme. Les portraits souriant dans leur cadre, et aux portes les figures des serviteurs rayonnantes de joie. Je n'y pouvais croire, après avoir vu quelques heures auparavant, de telles scènes de carnage et de dévastation. Jean eut évidemment la même pensée, car il laissa tomber la main de sa sœur et regarda autour de lui. « Donc, rien n'a été touché ? Rien ? Je ne me l'explique pas, » murmura-t-il. Monsieur de Réchamp se leva avec solennité, prit la main d'Yvonne et la porta à ses lèvres. « Rien n'a été touché, grâce à cet enfant. » Madame de Réchamp regardait son fils à travers ses larmes de tendresse. « Oui, certes, c'est à Yvonne que nous devons tout. Tout, tout, grand-maman vous racontera, » ajouta Simone. Mais Yvonne arrêta ce flot d'éloges en disant à son fiancé, avec un rire un peu impatient, « Et votre grand-mère, il faut monter la voir !» Quel type étonnant que cette grand-mère ! On me mena chez elle après le dîner. Sa chambre avait gardé ses anciennes boiseries simples, et la vieille dame était assise, toute droite, dans un fauteuil à oreilles, près d'une table à ouvrage avec une bougie sous un abat-jour vert. Elle était encore plus ridée et plus vieille qu'elle ne m'avait paru sur sa photographie et me sembla n'avoir jamais dû être jolie. Mais sa figure me plut tant que je n'y songeais pas. Je ne saurais dire à quoi elle me fit penser. Peut-être à un bouquet de verveine conservé longtemps dans un coffret de bois de santal. Sans doute, pour elle, ce que vous appelez la bonne société avait été le coffret de bois de santal. On appela Jean et ses parents en bas pour voir le curé, qui était accouru au château à la nouvelle de l'arrivée du jeune homme, et la vieille dame me pria de rester à bavarder avec elle. Elle me raconta leurs aventures d'un ton calme et détaché. Sa dignité avait surtout souffert d'avoir été obligé de descendre dans la cave, et pour éviter les obus français, s'il vous plaît. C'est à n'y pas croire. Les Allemands ont eu le bon goût de ne pas nous bombarder. » Il y avait si peu de rancune dans son récit que mon étonnement et ma curiosité me poussèrent à faire allusion à l'horreur d'avoir eu l'ennemi sous son toit. « Oh, répondit-elle, je pourrais presque dire que je ne l'ai pas vu. Je ne descends plus jamais, et ils ne m'ont pas fait l'honneur de franchir ma porte. Un regard leur a suffi. Une grand-mère comme moi. » Et une lueur rapide de coquetterie éclaira son vieux visage. « Mais ils ont fouillé le château, sûrement. Oh, une simple formalité. Ils se sont très bien conduits, » répondit-elle vivement. Au premier moment, nous avons craint qu'il ne fût difficile de faire partir mon fils et mon petit-fils. Mais Mademoiselle Malo a su tout arranger. On les a fait disparaître pendant le dîner des officiers. Elle me regarda avec ce sourire mutin qui donne un charme espiègle à certains pastels Louis XV de vieilles femmes. Après tout,
il y a du bon dans le nouveau système d'éducation des jeunes filles. »
Ma pauvre belle-fille, à l'âge d'Yvonne, était un bébé dans ses langes.
Elle l'est encore quelquefois. Le couvent ne développe pas la personnalité. Heureusement, Yvonne n'a pas été élevée au couvent.
Ce champion des traditions d'autrefois me regarda avec une malice narquoise. Peu à peu, elle me décrivit l'arrivée des Allemands. D'abord, la horde des fugitifs affolés venant des villages au nord de Réchamps, la canonnade dont le bruit sinistre se rapprochait de jour en jour. Puis, un beau matin, après un calme qui avait paru rassurant, la soudaine apparition d'un casque à pointe. Au bout de l'avenue, une douzaine d'autres casques se montrèrent bientôt à sa suite, presque tous des officiers. En un clin d'œil, Réchamps en fut rempli. C'était, dans la cour, un va-et-vient d'automobiles, des bottes de foin en masse, des fusils en faisceaux, une foule d'artilleurs dételant et pansant leurs chevaux. Tous avaient chaud et soif, et quel ne fut pas l'étonnement de Madame de Réchamps en voyant ses serviteurs leur verser du vin et du cidre.
« Ou du moins, c'est ce qu'on m'a raconté, » dit-elle en se reprenant, « car je n'ai pas l'habitude de regarder ce qui se passe par la fenêtre. » J'étais resté assis ici, dans mon fauteuil, et j'attendais. »
Et tandis qu'elle parlait, ce fauteuil prenait une majesté de chaise curule.
En bas, paraît-il, Mademoiselle Malo n'avait pas perdu de temps. Ce n'est pas elle qui serait restée assise à attendre dans un fauteuil.
Surprise par l'arrivée des ennemis pendant qu'elle était au jardin avec Simone, elle avait tranquillement ramené celle-ci à la maison pour recevoir les officiers sur le perron. L'officier qui commandait, capitaine ou commandant, était de fort mauvaise humeur, jurant et tempêtant, menaçant et parlant d'espion caché. La chaleur était accablante. Peut-être s'était-il trop rafraîchi. En tout cas, Mademoiselle Malo avait su comment s'y prendre. Quand il rentra avec les autres officiers, ils trouvèrent la table servie. Des boissons fraîches, des cigares, des fruits et du café glacé les attendaient dans la salle à manger. Elle sut même se souvenir que les Allemands aimaient la crème fouettée dans leur café. Les fées avaient tenu du miracle. Le capitaine...
Ah, comment donc s'appelait-il? Oui, Charlac, Chabrac...
Le capitaine Chabrac l'avait particulièrement complimenté sur les cigares et la crème fouettée. Puis il l'interrogea sur les autres membres de la famille et Mademoiselle Malo lui répondit qu'il n'y en avait que deux vieilles femmes. À ces mots, il fit la grimace et dit qu'il désirait quand même les voir. Elle répondit « L'une est la châtelaine, la comtesse de Réchamps. Elle est au lit, malade. Et l'autre est sa belle-mère. Elle est très âgée et ne quitte jamais sa chambre. »
« Mais n'y a-t-il pas d'homme dans la famille ?»«
Si fait, deux, le comte de Réchamps et son fils. »«
Et où sont-ils ?»«
En Angleterre. Monsieur de Réchamps est parti en voyage avec son fils il y a plus d'un mois. »«
On m'a dit aujourd'hui qu'ils étaient ici. »«
Ah, vous pouvez vous en assurer vous-même, en faisant faire une perquisition dans le château. »«
Merci, » dit-il en riant. « Cette idée m'était déjà venue. »
Elle rit aussi et, s'asseyant au piano, joua quelques mesures. Le capitaine Chabrac, qui allait sortir du salon, revint sur ses pas. La grand-mère tenait tous ces détails de Simone.
« Il paraît qu'il y en a parmi ces brutes qui aiment la musique, »
reprit la vieille dame.
Le capitaine était de ceux-là.
À ce moment-là, des soldats arrivèrent dans la cour, apportant un de leurs camarades blessé.
On sut, dans la suite, qu'il s'était blessé en essayant d'escalader un mur pour voler des fruits.
Mais à la vue du sang, les Allemands avaient, comme d'habitude, affirmé à grands cris que des civils avaient tiré sur eux.
Avec un fracas de sabre, un lieutenant entra dans le salon.
Mademoiselle Malo jouait du Stravinsky. La grand-mère s'arrêta de nouveau pour ménager ses effets. Elle me trouva, je crois, bon public.
« Eh bien, le croiriez-vous? Il paraîtrait qu'elle regarda tranquillement l'heure à son bracelet-montre en disant « Ces messieurs s'habillent-ils pour dîner ? Moi, je vais monter changer de robe. Nous aurions pourtant encore le temps de jouer un peu de Moussorski. Mon Dieu, quels noms impossibles ont ces musiciens d'à présent ! Vous pourriez faire taire tous ces gens-là dehors, on ne s'entend pas. » Notre capitaine la regarda encore, rit et donna un ordre qui renvoya le lieutenant. Puis, il s'assit à côté d'elle au piano.
« Jugez de ma stupeur, mon cher monsieur. Le salon est juste au-dessous de ma chambre.
Et je crus rêver en entendant le son de deux voix qui montaient vers moi. Ma foi, je vous avouerai que la voix du capitaine me sembla de beaucoup la plus belle. Il est vrai que j'ai toujours raffolé des barytons. »
Elle croisa ses mains ridées sous les dentelles de son fichu.
Dans la suite, les Allemands se comportèrent très bien. Très bien. Ils restèrent deux jours et nous n'eûmes jamais à nous en plaindre. Puis des ordres arrivèrent qui les envoyaient plus loin. Quelle chance nous avons eue de tomber sur un homme du monde comme ce Chabrac.
Oui, madame, certes, beaucoup de chance. Mais comme c'est curieux qu'il eût un nom français.
Très étrange.
C'est sans doute ce qui explique ses bonnes manières, répondit-elle paisiblement. Et je restais émerveillé et confondu de l'heureuse indifférence de la vieillesse.